refusé de prendre le tour de Ali ou d'autres compagnons. Il dit, il n'y a rien à faire, nous sommes tous des combattants, on doit être traités sur le même pied d'égalité, chacun son tour. Donc on doit user de la monture à temps égal et pour tous les trois. Et bien, Badr est situé au 17 du mois de Ramadan de l'an 2 de l'Hijr. La communauté venait à peine de naître à Médine. Et le jour du Furqan, Yawm al-Furqan, voilà encore un terme coranique qu'il est très difficile de rendre dans une autre langue. Il est dit dans Sourate Al-Anfal, le verset 29, « Ya ayyuha alladhina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyatikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadl al-azim. » Pour vous qui croyez, si vous êtes pieux envers Allah, il vous donnera un furqan. Et ici, bien sûr, traduit par une salvation, c'est-à-dire une action salvatrice qui vous sauvera, vous fera remise de vos mauvaises actions et vous pardonnera. Or, ce n'est pas vrai. Furqan, la racine, je reviens toujours enfin à la racine du mot faraqa, qui veut dire distinguer, séparer, le grain de livré. Et ce n'est pas une expression gratuite, effectivement. Le jour de Badr, Dieu a séparé le grain de livré. Il a séparé les politistes, les mouchriquins, les gens impurs de Quraysh, les ennemis déclarés de Dieu et du prophète, des musulmans. Il les a séparés. Il a mis une distinction entre le bon et le mauvais. D'ailleurs, c'est si vrai, cette interprétation, que dans un autre verset de la même sourate, Al-Anfal, il est dit, wa'lamu, innama ghanamtum min shay'in fa inna lillahi khumusahu wa lirrasul wa li dhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzala ala 'abdina yawm al-furqan. Donc il s'agit de Badr, l'allusion est nette. Yawm al-taqa al-jam'an wallahu 'ala kulli shay'in qadir. Le jour où il y a l'affrontement entre les deux camps. Et ce jour-là, alors là, la tradition islamique, on peut la considérer comme on veut, en tous les cas, le musulman y adhère entièrement, il y a un aspect merveilleux, comme on le trouve d'ailleurs aussi bien chez les juifs que chez les chrétiens, que chez les bouddhistes, a voulu enfin que les musulmans bénéficient ce jour-là d'une assistance divine, sous forme d'anges descendus du ciel pour assister les musulmans et permettre que ce combat à 1 contre 10 tourne en faveur des musulmans. Il y a eu un geste symbolique du prophète, relaté par tous les livres de Sira, qui a consisté pour le prophète de prendre une poignée de sable et de la jeter sur ses adversaires. Et la tradition prophétique veut que ce sable ait atteint les yeux de tous ses adversaires et permis en quelque sorte leur déroute et leur défaite. En vérité, avant d'aller au devant de la bataille de Badr, les musulmans ont quitté Médine en état de jeûne. Et ils ont rompu le jeûne juste la veille de Badr. Donc, ils s'étaient préparés spirituellement, physiquement, moralement, à la bataille. Ils ne savaient pas à quel genre de confrontation ils allaient avoir affaire. La confrontation était terrible. Mais la mobilisation de leurs ressources a été à la hauteur de l'épreuve. Et c'est ainsi que Badr joue le rôle de symbole par rapport à l'homme qui se sent faible, démuni, etc., mais qui, pour défendre le droit, et le bon droit, peut jouir d'une assistance extraordinaire et peut s'étonner de ses propres ressources, car il ne les connaît pas tant qu'il n'a pas été soumis à l'épreuve. Voilà le symbole que joue Badr. Il y a d'autres symboles qui ont été tirés à partir de cette bataille de Badr. Il y a eu des volumes qui ont été écrits. Mais un symbole essentiel à notre époque, au moment où les valeurs humaines sont piétinées partout à travers le monde, on vient à peine de pendre trois individus, trois pauvres frères africains en Afrique du Sud, parce qu'ils voulaient défendre leurs bons droits sur leur propre terre. On les a pendus au nom de la civilisation. Eh bien, à Badr, le prophète qui était victorieux et vainqueur a ordonné à ses compagnons que les prisonniers de Badr soient traités avec le maximum de clémence, à telle enseigne que la tradition a enregistré de l'aveu même de ces prisonniers que certains habitants de Médine leur donnaient la priorité pour ce qui est de manger, pour ce qui est en fait de se loger, sur leurs propres enfants, sur les propres membres enfin, de leur famille. C'est la bataille de Badr. Le sixième symbole, c'est l'entrée de Mohammed à la Mecque, le 20 Ramadan de l'an 8. Vous savez très bien, enfin les péripéties, en l'an 7, il s'est présenté pour le pèlerinage, il a été stoppé, en quelque sorte, par la force, mais il y a eu le fameux Hajj la Hudaybiyah, où on lui a demandé de remettre à l'année d'après son retour à la Mecque pour accomplir le pèlerinage. Et il est revenu le 20 Ramadan en 8. Et les Mecquois ont été surpris, mais alors totalement surpris. Ils ne s'attendaient pas du tout à voir les musulmans arriver en aussi grand nombre. Et dans l'état où ils étaient, parce qu'au moment où ils étaient entrés à la Mecque, Mohammed était en train de faire son tawaf autour de la Kaaba, en train de tourner autour de la Kaaba, et ils étaient enveloppés dans son drap, donc en état de ihram, les bruits ont commencé à courir dans le quartier de la Mecque, disant enfin que les musulmans sont épuisés, ça fait 8 ans qu'ils ont quitté la Mecque, ils ont subi enfin pas mal de batailles, et aussi pas mal de revers, parce que Mohammed n'a pas été toujours victorieux dans toutes ces batailles. Et donc, c'était une communauté un peu vieillissante, finissante peut-être. Omar, et quand on connaît qui était Omar, et l'énergie qu'avait cet homme, et le sens de l'honneur, notamment, et la bravoure qu'avait cet homme, avait entendu cette parole-là, il était venu voir le prophète, il lui a dit, il faudrait leur infliger un démenti. À l'époque, il n'y avait pas les moyens de communication modernes. On ne pouvait pas sortir un communiqué de presse, ou faire paraître un flash à la télévision. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Je lui ai dit, c'est très simple. Nous allons porter le ihram d'une autre façon. Et nous allons montrer nos biceps droits. Et depuis ce jour-là, les musulmans portent le ihram, comme vous le voyez aujourd'hui, avec le bras droit dégagé pour bien montrer que la communauté est encore une communauté de jeunes avec des biceps bien forts et de gens qui sont bien décidés à se défendre et à défendre leur bon droit. Comme quoi l'islam, c'est la religion de la futur, donc la religion de la virilité, la religion de la puissance, la religion de la dignité, de l'affirmation de la dignité de l'homme. Le symbole qui se dégage de la prise de la Mecque, de l'entrée à la Mecque, c'est l'attitude de Mohammed vis-à-vis des Mecquois. Et quand on pense, je vous ai dit un mot au début de cet exposé à propos de la sortie de Mohammed vers Taif pour aller vers les Banu Saqif et demander en fait leur assistance, tellement il avait rencontré en fait de brimades et d'humiliation de la part des gens de Quraysh, au moment où ils entrent victorieux à la Mecque, c'était le moment pour lui de prendre sa revanche. Or, au lieu de faire ça, il a accompli un acte de clémence extraordinaire à tous les Mecquois, en les laissant libres d'ailleurs d'opter ou de ne pas opter pour l'islam, mais en leur pardonnant tous leurs excès et tous leurs péchés anciens. Ce geste de clémence, à partir d'une position de force, est un symbole extraordinaire qui sera renouvelé plusieurs fois dans l'histoire de la communauté musulmane, et notamment par le grand Saladin, au moment où il a fait Richard, cœur de lion, son prisonnier. Il lui a tendu la main de la clémence, mais à partir d'une position de force. Al-Hilmu inda al-Aqtidar. Et on ne tend pas la main de la clémence lorsqu'on est à genoux, comme l'ont fait certains. L'entrée à la Mecque, c'est la liquidation du polythéisme dans l'ensemble de la presqu'île. Et c'est ce qui ouvre la porte au septième et dernier symbole, du moins à ma connaissance, et selon mon propre ijtihad, c'est l'an 9 ou l'année des députations, et surtout l'arrivée de la délégation des Banu Saqif en provenance de Taïf, après ce que le prophète avait trouvé auprès d'eux comme persécution pendant l'année du deuil, Salatu Shazmi. Et pendant cette année, au moment où les députations arrivent à la Mecque, arrive une révélation qui va tomber comme un coup de tonnerre dans le ciel des compagnons du prophète, au point de faire pleurer un homme comme Omar, dont je viens de parler. C'est Sourate al-Nasr, au moment où toute la péninsule arabique et toutes les tribus de la péninsule embrassent l'islam, arrive l'ange Gabriel avec une sourate, il a jaa à Nasrullahi wa Fathu. Quand arrive la gloire de Dieu et la victoire, ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا et tu as vu les humains entrer dans la religion de Dieu par vagues successives فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا et salut son prophète il lui dit chante les louanges de ton Dieu car il est miséricordieux mais Mohammed n'a pas commis de péché et voilà une belle leçon de modestie la plus grande leçon de modestie administrée au prophète en pleine gloire qui rejoint la toute première leçon d'humilité en enjoignant à cet homme analphabète de lire et d'écrire Omar a éclaté en sanglots car il a compris que c'était là le testament apporté par Gabriel à Mohammed car Mohammed allait disparaître l'année d'après non 10 Je m'arrête là, monsieur le président, et je vous remercie de votre attention.
Merci, docteur Fitouri.